En général, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a vraiment cette attente de précision absolue, presque mécanique en fait.
Ouais, c'est rassurant.
C'est ça, c'est très rassurant. On se casse le bras, on va à l'hôpital, la radiographie, elle s'affiche sur l'écran avec cette ligne blanche hyper nette, et le médecin a juste à pointer du doigt et dire bah, le problème est exactement là, au millimètre près.
C'est tout à fait ça. C'est binaire, en fait. C'est tangible. Le monde moderne, on adore ce qui est mesurable.
Ouais, c'est cassé ou ça ne l'est pas, c'est propre, on aime avoir des preuves qu'on peut toucher ou voir de nos propres yeux. Mais ensuite, on aborde des concepts complètement immatériels, des mots millénaires comme bah, la foi. Et là, soudainement, la machine à rayon X, elle fonctionne plus du tout.
Ah non, là c'est le flou total.
Totalement, Jules. La plupart du temps, on a l'habitude de voir ce concept un peu comme un paysage abstrait. C'est souvent perçu comme un sentiment spirituel super vague, une espèce d'optimisme nébuleux, ou même, ou pire, un refuge émotionnel pour les gens qui refusent de voir la réalité en face.
C'est vrai que c'est vraiment devenu la définition même des eaux troubles, conceptuellement parlant. Dans l'esprit collectif aujourd'hui, c'est presque l'opposé de la rationalité ou d'une action stratégique.
Sauf que notre discussion d'aujourd'hui, elle va complètement faire voler cette image en éclats. Je suis hyper curieuse de voir ça. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte ancien qui a réussi, franchement, un tour de force psychologique absolu.
Absolument.
Nos sources s'appuient sur une analyse académique qui est juste fascinante du docteur David A. Desylvain.
Une excellente analyse d'ailleurs.
Grave. Et ses recherches portent sur un texte biblique très spécifique, c'est l'Épître aux Hébreux, et plus précisément une longue section qui va du chapitre 11 jusqu'au début du chapitre 12. La mission de cette analyse, elle est radicale, puisqu'elle redéfinit totalement la notion de foi.
Ouais, c'est un changement de paradigme complet.
Exactement. Selon ses recherches, on ne parle pas du tout d'un réconfort émotionnel ou d'une croyance passive en attendant que l'orage passe, quoi. Au contraire, c'est une stratégie de survie hyper concrète, orientée vers l'action, avec des termes presque juridiques, et c'est conçu spécifiquement pour maintenir à flot une communauté en pleine crise sociale. Il y a vraiment énormément de choses à déballer ici. Alors, d'accord, décortiquons tout ça.
Allons-y.
Comment un document antique utilise-t-il des techniques de persuasion aussi pointues pour forger une résilience absolue face à une catastrophe sociale?
Pour bien saisir l'impact de cette rhétorique, c'est impératif de comprendre à qui ce texte s'adressait. L'auteur, il n'écrivait pas un traité philosophique dans le confort d'une bibliothèque, hein. Il s'adressait à une communauté en état de choc.
Ouais, des gens traumatisés.
C'est ça. On parle de personnes qui venaient de subir une dépossession violente. Ils avaient perdu leur statut social, leurs entreprises, leur maison, leur honneur public. Et le plus tragique pour eux, c'est que cette perte, elle n'était pas du tout due à une mauvaise gestion financière ou quoi que ce soit. C'était uniquement à cause de leurs convictions. Du coup, l'auteur doit accomplir une tâche titanesque. Il doit persuader ces individus que les réalités qu'ils peuvent pas voir sont infiniment plus réelles et précieuses que les maisons physiques et la respectabilité sociale qu'on vient de leur arracher.
Ouais, je dois vous arrêter une seconde parce que, franchement, c'est un défi rhétorique qui me semble presque impossible. Enfin, dire à quelqu'un qui vient de se faire expulser de chez lui sous les huées de ses voisins, t'inquiète pas, l'invisible est de bien meilleure qualité que ton ancienne maison.
Ouais, vu comme ça frôle l'insulte.
Mais c'est clair. Et c'est là que l'anatomie de ce chef-d'œuvre entre en jeu, n'est-ce pas? Parce que nos sources soulignent que l'auteur utilise une technique très, très spécifique pour marteler son message.
Exactement. Le docteur De Silva met en lumière l'utilisation vraiment experte d'une figure de style qu'on appelle l'anaphore. En gros, c'est un procédé qui consiste à répéter le même mot ou le même groupe de mots au début de chaque phrase ou segment.
D'accord.
Et dans le texte grec original de ce chapitre 11, c'est l'expression pisté, qui se traduit par la foi. L'auteur y déclenche cette expression plus d'une vingtaine de fois. Par la foi, un tel a fait ceci, par la foi, un autre a fait cela. Et c'est pas qu'un effet poétique, attention.
Ouais, il y a une vraie stratégie derrière, hein. Et son public de listes d'exemples historiques hyper répétitifs. Ah! Pour les forcer à imiter ses comportements, c'est ça, hein?
Exactement, pour les forcer à imiter des comportements héroïques. Et il concluait souvent par des formules un peu expéditives du genre « je manquerais de temps si je devais tous les nommer ». Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bah, il copie presque trait pour trait cette architecture persuasive pour créer un effet d'avalanche.
Un effet d'accumulation, ouais.
C'est ça, une accumulation de preuves qui va littéralement submerger les doutes de l'auditeur.
C'est un rouleau compresseur argumentatif, en fait. Mais là où l'analyse devient vraiment, mais alors vraiment chirurgicale, c'est dans le vocabulaire utilisé. Parce que le chapitre, il s'ouvre sur une définition super célèbre qui est souvent traduite par « la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas ». Bon, sur le papier, ça sonne très théologique, très joli.
Très abstrait, ouais.
Voilà. Mais le docteur De Silva, lui, il creuse le grec antique et il s'arrête sur ce mot qui est traduit par « substance ». Le mot « hypostasis », c'est ça ?
Oui, « hypostasis ». Alors, dans le langage philosophique de l'époque, c'est vrai que ça désigne l'essence d'une chose, sa réalité sous-jacente. Mais l'analyse académique nous montre qu'il faut regarder au-delà des cercles philosophiques. Si on fouille dans les papyrus de la vie quotidienne de l'Antiquité...
Ouais, et c'est justement ça qui m'a frappé dans la source. Dans le langage des affaires de l'époque, c'est pas du tout un concept éthéré.
Ah bah pas du tout. Dans les transactions commerciales ou foncières, hypostasis désigne très littéralement un titre de propriété.
Waouh !
Ou une garantie financière déposée en gage. C'est pas une humeur, c'est pas un souhait en l'air, c'est un document légal contraignant. Et l'auteur, il renforce cette idée avec le mot suivant dans la définition, elenchos, qui est traduit par preuve.
D'accord, elenchos.
Voilà, et elenchos, c'était un terme technique utilisé dans les tribunaux gréco-romains. Il décrivait une preuve irréfutable, genre un élément matériel qu'un avocat présentait au juge et qui pouvait juste pas être renversé par la partie adverse.
Ok, j'essaie de transposer ça à notre époque pour bien saisir la mécanique. C'est comme si j'achetais un appartement sur plomb dans un immeuble qui est même pas encore sorti de terre. Je veux dire, j'ai jamais vu cet appart.
Il n'y a que de la boue sur le chantier.
C'est ça, il n'y a que de la boue. Mais j'ai dans mon coffre-fort le titre de propriété notarié, tamponné, validé par l'État. Et le fait de posséder ce bout de papier, bah, ça veut dire que je possède l'appartement de manière incontestable, même si j'y ai jamais mis les pieds. Donc selon cette analyse, la foi, c'est détenir ce document juridique pour une réalité future.
La métaphore est absolument parfaite. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact psychologique dévastateur et hyper brillant de ce choix de mots. Faut pas oublier le contexte. Au chapitre précédent, le texte rappelle explicitement à ces gens qu'ils ont récemment subi la confiscation violente de leurs biens matériels.
Ouais, ils ont tout perdu.
Ils ont perdu leur véritable titre de propriété romain. Donc en utilisant des mots comme « hypostasie » et « elenchos », l'auteur fait de la provocation. Il leur dit en substance « l'Empire vous a pris vos titres de propriété terrestre. C'est qu'une perte mineure. »
Ah ouais, c'est fort.
Par la foi, vous détenez déjà dans vos mains le titre de propriété inébranlable du monde à venir et en plus validé par une cour de justice bien supérieure.
C'est une inversion totale des valeurs. Mais il y a un autre aspect de leur souffrance qu'il faut souligner. Perdre sa maison, bon c'est dur, mais dans le monde antique, perdre son honneur public, c'était parfois pire, non ? C'était la mort sociale. Et là, De Silva souligne un autre terme fondamental, c'est « martoria ».
Absolument. Le monde gréco-romain, il fonctionnait sur l'honneur et la honte, et aussi sur le système de patronage. L'approbation de la société, c'était votre monnaie d'échange pour survivre. Et le terme « martouria », ça signifie l'attestation ou l'approbation formelle. Le chercheur Frédéric Doncoeur, il a passé au crible les inscriptions honorifiques de l'époque romaine. Et il a découvert que « martouria », c'était le terme officiel que les autorités municipales ou impériales utilisaient pour endosser un citoyen méritant, pour graver ses actes héroïques dans le marbre et lui accorder des honneurs publics.
Donc si je comprends bien, l'auteur s'approprie encore une fois le système du monde dominant. Ses croyants, ils sont devenus la risée de leur ville, leurs voisins les fuient comme la peste, ils n'ont plus aucune martouria terrestre.
Plus aucune.
Mais l'auteur affirme que la foi, c'est le moyen d'obtenir une attestation officielle, non pas gravée sur une stèle par l'Empire romain, mais décrétée par la cour de Dieu lui-même.
C'est un mécanisme psychologique de substitution, en fait. Si vous perdez l'approbation de votre ville, l'auteur vous offre l'approbation du cosmos.
C'est d'une audace folle. Mais la question logique qui suit directe, c'est comment prouver que ce monde invisible qui délivre ses fameux titres de propriété et ses attestations d'honneur est réellement supérieur au monde matériel qu'il regrette.
C'est le défi, oui.
L'auteur, il ne se contente pas de l'affirmer. Nos sources montrent qu'il remonte aux origines absolues pour le démontrer, jusqu'à la création du monde et ensuite aux premiers humains.
Tout à fait. Le fondement de son argumentation, il est d'abord philosophique, dès le début du chapitre. Il affirme que l'univers visible tout entier a été formée à partir de l'invisible. Et la logique, elle est implacable et très familière pour les esprits formés à la philosophie antique.
Ouais.
Si tout ce qui est visible dépend d'une source invisible, bah alors l'invisible est la cause première. Il est, par définition, antérieur, supérieur et permanent. Le matériel, lui, il est que contingent et éphémère.
Ok, je vois.
Et une fois ce postulat posé, l'auteur déploie sa galerie de portraits historiques pour prouver que s'aligner sur l'invisible, c'est la seule stratégie valable. À commencer par la figure d'Abel, puis celle d'Enoch.
Bah justement, concentrons-nous sur ces deux-là, parce que leurs histoires semblent montrer que la foi permet de pirater le concept même de la mort. Abel, par exemple, il fait un sacrifice, il s'en remet à l'invisible, et le résultat immédiat.
Il se fait assassiner.
Voilà, il se fait assassiner par son frère. Vu de l'extérieur, c'est un échec cuisant. Mais le texte précise que, grâce à sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Sa réputation, elle survit à son meurtre.
Exactement.
Et Enoch, c'est encore plus radical. Il meurt même pas. Mais l'analyse de Silva met le doigt sur un détail de traduction que je trouve absolument captivant concernant Enoch.
Ah oui, ce détail, il change tout. Dans le texte hébreu original de la Genèse, il est écrit qu'Enoch marchait avec Dieu. C'est une belle image, très poétique. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il n'utilise pas l'hébreu. Il s'appuie sur la traduction grecque de l'Ancien Testament.
La Septante.
Voilà, la Septante. Or, les traducteurs de la Septante ont rendu « marcher avec Dieu » par une phrase très différente. Ils ont traduit par « il plut à Dieu ». Et l'auteur saisit cette nuance au bon. Il martèle l'idée qu'Enoch a plu à Dieu avant de disparaître.
Mais pourquoi cette différence est-elle si cruciale pour son argumentation ?
À cause de la pression sociale insoutenable que subissait son auditoire. Ces gens, ils étaient tiraillés au quotidien, ils voulaient plaire à leurs voisins, plaire aux magistrats locaux pour arrêter d'être persécutés et marginalisés.
Ouais, retrouver une vie normale, quoi.
C'est ça. Et l'auteur utilise Enoch pour lancer un avertissement. Il leur dit de se détacher de cette quête de validation sociale. Chercher à plaire à une société hostile, c'est une impasse. La seule approbation qui a une réelle valeur de survie à long terme, celle qui transcende même la mort, comme pour Enoch, c'est de plaire au juge invisible.
C'est un recadrage cognitif très, très puissant. Et ça nous mène naturellement à l'exemple suivant, celui qui a dû faire face à, franchement, la pire pression sociale imaginable. C'est Noé. Noé, il est averti d'un événement totalement invisible, le déluge. La réaction logique, poussé par la foi selon ce texte, bah c'est de construire une arche. Mais arrêtons-nous juste une seconde sur le contexte. Il construit un navire gigantesque, sur la terre ferme.
Au milieu de nulle part.
À kilomètres de la moindre étendue d'eau, et ça pendant des années. Moi j'essaie d'imaginer la scène d'un point de vue sociologique, il a dû passer pour un fou furieux auprès de sa communauté.
C'est une certitude.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? Est-ce que cette redéfinition de la foi, elle implique qu'il faut accepter le ridicule absolu dans le présent pour espérer une validation dans un futur incertain ?
Eh bien c'est très exactement la thèse centrale du texte. Noé a agi exclusivement en fonction d'une réalité future qu'il était le seul à percevoir. En assumant cette absurdité aux yeux de ses contemporains, le texte affirme mystérieusement qu'il condamna le monde.
Ok.
Son comportement, qui paraissait relever de la démence, en fait, s'est révélé être la seule approche rationnelle et pragmatique lorsque la catastrophe a frappé. Le message implicite pour l'audience du 1er siècle, il est limpide.
Ouais.
Vos voisins païens se moquent de vous aujourd'hui, tout comme les voisins de Noé se moquaient de son bateau sur la terre ferme. Mais le jugement futur établira de manière incontestable qui détenait la larité.
Accepter d'être traité de fou, endurer la perte de son statut... Tout ça pave la voie vers la figure centrale de l'argumentation, l'archétype même de celui qui a sciemment tout sacrifié. Je parle du patriarche Abraham. On pourrait vraiment le considérer comme le migrant ultime de la foi, non ?
C'est un très bon terme. Le traitement de la figure d'Abraham par cet auteur, il est d'une originalité folle, surtout si on le compare à la théologie de l'apôtre Paul.
Ah bon ? Comment ça ?
Quand Paul utilise Abraham dans ses lettres, il met presque tout le poids de son argument sur la foi d'Abraham en la promesse d'une descendance et sur la justification théologique. Mais De Silva fait remarquer que l'auteur des Hébreux, lui, s'intéresse à tout autre chose. Il s'intéresse au déplacement social volontaire. Le texte insiste sur le fait qu'Abraham quitte sa patrie, sa sécurité clanique, sans même savoir quelle était sa destination finale.
Et il faut bien mesurer ce que quitter sa patrie signifiait dans l'Antiquité. Je veux dire, aujourd'hui, on déménage pour une opportunité de carrière, c'est super. À l'époque, quitter la protection de son clan et de ses dieux tutélaires, c'était se rendre infiniment vulnérable. C'était devenir un étranger sans droits légaux, une proie facile, quoi.
Complètement.
Et l'auteur insiste sur un fait étonnant. Même lorsqu'Abraham arrive finalement en Canaan, la fameuse terre promise, il construit pas de palais ni de forteresse. Il choisit de vivre sous des tentes, avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Et moi je me dis, s'ils sont enfin arrivés chez eux, pourquoi ils continuent de camper comme des nomades ?
Parce que, dans l'esprit de l'auteur, Canaan n'était pas la destination finale. La terre géographique n'était qu'une étape. Le texte précise qu'Abraham cherchait la ville ayant de solides fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
D'accord.
Vivre sous une tente pendant des décennies, c'est un acte de protestation silencieux. C'est refuser de s'enraciner dans l'économie et la politique locale. C'est une manière de dire que la société humaine environnante, bah, c'est pas sa véritable patrie. Et l'analyse de Silva relève au passage un vocabulaire médical particulièrement cru qui est utilisé en grec pour décrire la condition d'Abraham.
Ah oui, le texte prend pas de gants. Il décrit Abraham comme étant mort. Évidemment, il part de sa vitalité reproductive, à cause de son âge très avancé. Et de ce corps biologiquement mort, sans aucun avenir naturel, naît pourtant une descendance qui est comparable aux étoiles du ciel ou au sable de la mer.
Et voilà, ce thème de la foi qui défie et transcende la mort physique, il est omniprésent. On l'a vu avec Abel qui parle d'outre-tombe, avec Enoch qui l'esquive carrément, et maintenant avec la fertilité miraculeuse tirée d'un corps moribond. Mais l'apothéose de cette logique, c'est l'épisode de la ligature d'Isaac.
Ouais, un épisode qui est souvent perçu comme terrifiant. Enfin, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, celui-là même qui portait toutes les promesses de descendance. Comment l'auteur justifie-t-il l'obéissance d'Abraham là-dedans ?
En lui attribuant une logique froide et calculatrice, basée sur la foi. L'auteur affirme qu'Abraham a raisonné que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts pour tenir sa promesse. Abraham détenait le titre de propriété de la promesse, on y revient. Et il considérait que ce document légal invisible était plus puissant que la biologie, plus puissant que le tranchant du couteau et plus puissant que la mort elle-même.
C'est fou. Et cette identité de pèlerin refusant de s'assimiler, elle se transmet aux générations suivantes. L'analyse met en lumière un détail fascinant concernant la mort de Jacob. Encore une fois, emprunté à la version grecque de la Septante.
Oui.
Le texte hébreu original, il dit que Jacob mourant a adoré Dieu en s'appuyant sur le bout de son lit. Mais la traduction grecque, à cause d'une subtilité de vocalisation des consonnes hébraïques, elle a traduit ce mot par « bâton ». Et l'auteur des Hébreux, il adopte délibérément cette image du bâton.
Et c'est pas un hasard du tout, hein. Le bâton, c'est l'attribut fondamental du voyageur, du pèlerin, qui fait que passer. L'auteur construit vraiment un monument à la mobilité. D'ailleurs, il mentionne Joseph immédiatement après. Joseph, qui est pourtant devenu le bras droit du pharaon, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde antique, eh ben, il se considère pas chez lui en Égypte. Sur son lit de mort, sa dernière volonté, elle est stricte. Il ordonne qu'on rapatrie ses ossements le jour où son peuple partira. Tout le confort et le pouvoir de l'empire égyptien, ça n'a pas réussi à lui faire oublier que sa véritable maison était ailleurs.
Bah ça me fait penser à cette vieille tactique militaire qui consiste à brûler ses vaisseaux. Quand une armée débarquait sur une rive ennemie, le général faisait parfois incendier les navires. Du coup, il n'y avait plus d'option de repli, c'était la victoire ou l'anéantissement. L'auteur, il affirme que si les patriarches avaient eu la nostalgie du pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu tout le loisir d'y retourner. La route existait, quoi.
Ouais, l'option était là.
Mais la vraie foi, elle exige de couper irrémédiablement les ponts avec l'ancien système de sécurité.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là qu'on comprend l'urgence pastorale de ce texte. Les auditeurs de l'Épître, ils subissaient une telle décote sociale que la tentation de capituler, elle était immense. Leurs anciens amis païens leur disaient probablement « Revenez à nos rituels, reniez cette nouvelle croyance et vous retrouverez vos affaires, votre place au théâtre, votre tranquillité. » quoi. L'auteur brosse le portrait d'Abraham et de ses descendants pour leur marteler une règle absolue. Le fondement même de notre identité historique, ça consiste à ne jamais faire demi-tour. Le regard doit toujours être fixé sur l'avant.
C'est un argument percutant. Abraham a renoncé à un confort bourgeois, on pourrait dire. Mais la pression monte vraiment d'un cran dans la section suivante du texte, avec la figure de Moïse. Parce que là, on ne parle plus d'un simple chef de clan qui abandonne son confort pastoral. La foi de Moïse, selon cette grille de lecture, elle exige qu'il renonce au sommet absolu de la pyramide politique et financière du monde connu.
Ah, le traitement de l'histoire de Moïse par cet auteur, c'est une véritable masterclass de réinterprétation. Le docteur De Silva rappelle que, selon les historiens juifs de l'époque, comme Flavius Joseph, la tradition considérait Moïse non pas simplement comme un enfant sauvé des eaux, mais comme un membre à part entière de la famille royale égyptienne.
Ouais, un prince.
Un prince doté de tous les privilèges militaires et financiers, avec le pharaon en personne comme bienfaiteur. Et le texte de l'épître souligne qu'il a catégoriquement refusé d'être appelé fils de la fille du pharaon.
Alors là, je dois intervenir parce que c'est un point de friction majeur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une différence abyssale entre subir la persécution quand elle vous tombe dessus à l'improviste, ce qu'a vécu l'audience du 1er siècle, et choisir activement de détruire sa propre vie privilégiée.
Exactement.
Moïse a sciemment organisé sa propre dégringolade sociale. Le texte précise qu'il a préféré être maltraité avec les opprimés plutôt que de jouir du, je cite, « plaisir temporaire du péché ». Et l'analyse de De Silva, elle souligne que ça modifie complètement notre grille de lecture du mot « péché ».
Oui, c'est un changement de paradigme théologique massif. Habituellement, on perçoit le péché comme une transgression morale évidente, genre le vol, le mensonge, le meurtre. Mais dans le contexte précis de ce choix de Moïse, le péché, c'est pas un vice privé. Le péché, c'est la capitulation sociale.
Ah ouais!
C'est choisir la sécurité, le prestige et les avantages matériels du groupe dominant au lieu de se solidariser avec ceux qui souffrent, avec les marginaux. Rester silencieux dans les palais d'Égypte pendant que son peuple était réduit en esclavage, bah c'était ça, le péché.
Donc l'absence de solidarité motivée par la préservation de son confort s'est érigée en péché capital. Moïse a estimé que l'opprobre, la honte publique d'être associé à des esclaves, bah ça constituait une richesse supérieure au trésor de l'Égypte. Mais attendez, il y a un détail historique qui cloche si on lit l'Ancien Testament.
Ah, lequel ?
Le livre de l'Exode, il raconte que Moïse a tué un Égyptien, puis qu'il s'est enfui dans le désert parce qu'il était terrifié par la vengeance de Pharaon. Enfin, il a pris ses jambes à son cou. Or, l'analyse pointe du doigt que l'auteur de l'Épître, il réécrit l'histoire.
Vous avez l'œil ? C'est une omission délibérée très habile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'aligne ici sur une tendance de certains écrivains juifs de l'Antiquité, comme Artapane ou Joseph, qui cherchaient en fait à lisser l'image de Moïse pour en faire un héros gréco-romain sans faille.
D'accord.
Il efface donc totalement la panique et le meurtre. Il déclare froidement que Moïse a quitté l'Égypte, je cite, « sans craindre la fureur du roi ».
Pourquoi ?
Parce qu'il tenait les yeux fixés sur celui qui est invisible. L'auteur transforme une fuite qui était motivée par la panique en un acte de défiance majestueux et inébranlable.
Et cet argument, il est taillé sur mesure pour ses lecteurs. Si vous fixez intensément la réalité invisible, les menaces du magistrat romain local vous paraîtront dérisoires. L'analyse accélère ensuite à travers les événements de l'Exode lui-même. L'auteur dépeint la Pâque, le sang aspergé sur les cadres de portes, comme un pur pari sur l'avenir basé sur des promesses invisibles. La traversée de la mer Rouge devient une allégorie du jugement. Les eaux, qui sont un instrument de salut pour ceux qui misent sur l'invisible, elles se transforment en une arme d'annihilation totale contre l'armée égyptienne qui incarnait la puissance matérielle suprême.
Et cette démonstration de l'impuissance de la force visible a atteint son paroxysme avec l'épisode de Jéricho. Si on examine ça avec des yeux de stratège militaire, faire parader des troupes en silence autour d'une ville lourdement fortifiée pendant 7 jours, ça n'a aucun sens. C'est presque suicidaire.
Complètement absurde, ouais.
Mais dans la logique du texte, c'est la foi en l'architecte invisible qui fait littéralement s'effondrer les murs matériels.
Et au milieu de ces gravats, il y a Rahab, une femme qui cumulait tous les désavantages. Elle était étrangère, cananéenne et prostituée de surcroît. Pourtant, elle trahit sa propre cité et son propre roi. Et pourquoi ? Parce qu'elle a procédé à un calcul cynique et brillant sur la viabilité à long terme de sa ville.
Cela soulève une question importante sur la façon dont nous évaluons nos propres systèmes de sécurité, en fait. Rahab, qui occupait le bas de l'échelle sociale à Jéricho, elle a compris avant tout le monde qu'aucune forteresse terrestre, aussi épaisse soit-elle, n'est à l'abri du jugement.
Oui, elle a vu loin.
Elle a vu que l'avenir appartenait au dieu invisible de ces nomades. Et en accueillant les espions, elle a choisi la solidarité avec l'avenir plutôt que la loyauté envers un système présent qui était voué à la destruction. À travers elle, l'auteur démontre que Jéricho n'était pas plus permanente que l'Égypte. Seule la cité céleste perdure.
Franchement, quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle rhétorique, le constat est vertigineux. L'analyse du docteur De Silva prouve sans l'ombre d'un doute que, dans ce texte, la foi, c'est jamais, absolument jamais, un simple sentiment intérieur.
C'est un acte de rébellion fondamental. C'est la revendication féroce de ce titre de propriété pour des réalités invisibles. Et c'est la traduction de cette revendication en actes concrets, qui paraissent souvent absurdes ou suicidaires sur le plan économique et social.
C'est ça.
Et l'auteur couronne d'ailleurs son argumentaire au début du chapitre 12. Il décrit tous ces personnages historiques comme une immense nuée de témoins, comme une foule dans les gradins d'un stade antique, tu vois. Ils encouragent l'audience, les coureurs actuels, à pas abandonner la course. Et au centre de ce dispositif, il place Jésus comme le pionnier absolu, celui qui a enduré la croix en méprisant la honte parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie future.
Mépriser la honte, c'est peut-être la clé de toute cette stratégie en fait. Refuser de laisser l'opinion publique ou les tribunaux humains dicter notre valeur parce qu'on détient un document validé par la plus haute cour de l'univers. Alors, pour clore cette plongée au cœur de nos sources, j'aimerais proposer aux personnes qui nous écoutent une réflexion qui prolonge tout ce qu'on vient d'explorer.
Très bonne idée.
Si l'on accepte cette définition exigeante, la foi comme un titre de propriété invisible qui nous pousse à agir à l'encontre de notre sécurité immédiate, transposons ça à notre monde moderne. Aujourd'hui, quelles sont ces fameuses réalités invisibles qui nous gouvernent ? Que ce soit un idéal intransigeant de justice, la défense d'une vision d'avenir pour les générations futures, ou une conviction éthique ancrée si profondément qu'aucune somme d'argent peut l'acheter ? Quelles sont ces forces immatérielles qui dictent nos choix les plus déchirants, qui nous coûtent parfois notre carrière ou notre réputation, et qui, à l'image d'Abraham ou de Moïse, nous rendent incapables de reculer face à la pression écrasante du conformisme ?